Enfants de Dieu, louez le Seigneur. C'est un grand jour pour nous qui se lève aujourd'hui. Réjouissons-nous ensemble et chantons. Que notre visage s'éclaire, que notre cœur se réjouisse. Le Seigneur nous aime, le Fils de Dieu est vivant. Il nous accompagne sur la route, il vient pour nous sauver. Il ne fait que du bien, il ne saurait faire du mal. Il a rendu la justice et relevé les petits. Chantez votre joie, vous qui l'aimez, réjouissez-vous. Alléluia. Je vous invite à vous lever pour le premier cantique. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, il y a dans votre sautier un petit livret avec les cantiques, ce qu'on appelle les spontanés. Nous louons Dieu avec le psaume 22, quelques versets. « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, sa postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. » J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent le Seigneur le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Amen. Nous chantons le psaume 118, les trois premières strophes du « Célébrez Dieu, rendez-lui grâce », page 136.
Son amour,
t'invite à prendre place. Nous plaçons notre vie sous le regard juste mais bienveillant de Dieu. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, en un jour semblable, tu es entré dans la cité rebelle où tu devais mourir et tu as purifié le temple profané par le commerce, les marchands. Viens habiter en nous, purifie-nous de tout ce qui n'a pas le droit d'être en nous. Fais de nous tous un sanctuaire où brille la flamme de ton amour. Amen. Et nous chantons « Tel que je suis ». Que tous ceux qui se répandent sincèrement reçoivent avec confiance et joie cette parole de la part du Seigneur telle que l'a écrit l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a annulé l'acte d'accusation. Que les commandements retournaient contre nous, il l'a fait disparaître en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les autorités et les puissances qui nous asservissaient. Il les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À cause de cette parole et de tout l'Évangile, il est permis de dire à ceux qui se repentent et mettent leur confiance en Jésus-Christ, « Le Dieu Tout-Puissant vous fait miséricorde, il vous pardonne vos péchés, il vous conduit à la vie éternelle. » Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter « À toi nos louanges ». À toi de manger. Comment mener maintenant notre vie dans le pardon qui nous est offert? Écoutez ces paroles de Jésus. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en gage pour la multitude. Et voici comment notre Seigneur Jésus a résumé toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le premier, le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour qu'aujourd'hui je sois libre, nous chantons le cantique 44-08. Prenez place. Alors pour ce dimanche des rameaux, à un moment il faut bien dire que c'est le dimanche des rameaux, pour ce dimanche des rameaux, deux lectures, qui ne sont pas toutes les lectures du jour, mais enfin, il y a d'abord Philippiens, au chapitre 2, puis dans un deuxième temps, l'évangile de Luc, chapitre 19, le fameux récit dit des rameaux, mais nous en discuterons tout à l'heure. C'est Yvon Serge qui va nous faire la lecture.
Philippiens chapitre 2, nous lirons du verset 6 au verset 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne se retint pas jalousement le rang de qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et en enfer. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La deuxième lecture est dans le livre de Luc, chapitre 19, nous lirons du verset 28 au verset 40. Après avoir ainsi parlé, il partit en avant et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils l'amenèrent à Jésus, puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon et firent monter Jésus. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Ils approchaient déjà de la descente du mont des Oliviers, lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent, « Maître, rabroue tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront.
Prenez place. Et si tout cela n'était qu'un vaste malentendu? Je ne parle pas seulement de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Enfin, si, bien sûr, c'est de. Mais ce malentendu-là était juste le symptôme d'un quiproquo total. Pas seulement à l'époque, mais de tout temps, jusqu'à aujourd'hui. Et si tout le monde s'était trompé, y compris nous, au sujet de Jésus? En quoi? Je propose de regarder ce fameux épisode dit des rameaux, Je me permets d'ailleurs à ce sujet de vous dire, c'est vrai qu'on n'a pas, on aurait pu décorer un peu la salle pour mettre, en mettant des quelques rameaux, mais on a bien fait de ne pas le faire parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans l'épisode de Luc, point question de rameaux. Il y a bien des vêtements, mais on ne les met pas sur la route comme dans d'autres évangiles, mais on les met sur la monture pour faire une forme de selle, j'imagine. Bref. Donc, aucune référence à des branchages qu'on poserait sur le chemin. Surprenant, mais comme ça, il n'y a pas d'entrée d'ailleurs à Jérusalem, puisque Jésus n'entre pas dans cet épisode à Jérusalem. Il s'en rapproche de très près, certes, mais il n'y entre pas encore. Alors, évidemment, tout cet épisode, qui va des rameaux à Vendredi Saint, mais peut ressembler à l'illustration d'un adage latin qui veut qu'il n'y ait pas loin de la roche, du Capitole à la roche tarpéienne. Alors, si vous avez un peu oublié vos humanités, le Capitole, c'est là où on fêtait les généraux vainqueurs, où on triomphait, et la roche tarpéienne, c'est là où c'est une roche du haut de laquelle on précipitait les traîtres pour qu'ils s'écrasent en bas. Donc, on disait qu'il n'y a pas loin de l'un à l'autre, et on est bien dans cette idée-là, avec Jésus qui triomphe, pour ainsi dire, ce dimanche des rameaux, cet épisode des rameaux, et qui va être crucifié quelques peu de temps après. De fait, l'acclamation de Jésus comme roi dans ce passage précède de très peu, je le disais, c'est moins qu'on puisse dire, sa crucifixion et sa mort ignominieuse. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas bien avancé. Pour moi, il y a deux événements qui détonnent dans ce récit. Le premier élément est cette histoire d'un nom. Il est surprenant que ce qui pourrait simplement passer pour un détail technique, il faut bien une monture, occupe près de la moitié du récit. Il faut bien avouer que toute cette histoire est bien étrange et énigmatique. Les commentateurs, à leur habitude, sont donnés à cœur joie et ont pondu toutes sortes d'explications contradictoires entre elles. Ça va de l'organisation secrète d'un coup d'État à la prescience de Jésus, voire son omniscience, en passant évidemment par des lectures symboliques et allégoriques. Que représente l'annon ? Pourquoi devait-il n'avoir jamais été chevauché par personne ? Pourquoi a-t-il plusieurs maîtres ? Faut-il opposer le Seigneur au singulier, au Seigneur au pluriel de l'animal ? C'est le même mot dans les deux cas. Que de mystères passionnants, ou pas. Ensuite, une fois que Jésus est monté sur le baudet, de quoi avait-ce l'air ? Là encore, les avis divergent. Pour les uns, c'est un cortège royal et grandiose. Pour les autres, c'était plus, cheap. Voilà. Pour Calvin, d'ailleurs, par exemple, tout cet équipage était ridicule en soi, et pour le citer, une chose bien honteuse, propre à se faire moquer. Vous voyez, donc, c'est un peu comme sur TripAdvisor, ça va le même truc peut aller de zéro nul à excellent 20. Enfin, je ne sais pas combien c'est. Enfin, bref, tout le monde, ou presque, tous se rejoignent pour dire que c'est une façon de montrer au monde qu'il n'est pas roi à la façon du monde. C'est un roi, mais pas comme on a l'habitude que ce soit des rois. Bon, alors, il m'est revenu en mémoire un vieux film de 1960, donc plus vieux que moi, donc vieux, de Gilles Grangier qui s'appelle « Les vieux de la vieille ». Et c'est un passage avec Pierre Fresnay. Je vous invite à découvrir. Il descend d'un bus, donc. Alors, j'ai envie de vous dire qu'à contrario, en oubliant l'histoire du canard, un roi qui ne ressemble pas à un roi, dont le royaume n'est pas ce qu'on entend généralement par royaume, et dont le règne n'est pas de ce monde, c'est probablement pas un roi. Non que je veuille enlever quoi que ce soit à la dignité de Jésus, c'est pas du tout mon propos, mais sans doute faut-il oublier cette symbolique-là. D'autant plus que le passage qui précède dans l'évangile de Luc est une double parabole qui raconte l'histoire d'un roi qui fait égorger ses opposants. Or, pardonnez-moi de divulgâcher la suite de l'évangile, mais Jésus ne va égorger personne. Au contraire. Il y a là un véritable hiatus entre la figure du roi que pose la parabole et l'image que Jésus va donner de lui-même. Je me repose donc la question, et je vous la pose par conséquent à vous, si Jésus n'avait pas voulu qu'on l'assimile à un roi. Et le choix d'un âne va dans ce sens. C'est une monture de pèlerin, de voyageur, de paysan, pas une monture de souverain. Mais je n'oublie pas que je vous annonçais qu'il y avait deux éléments qui me troublaient, qui me perturbaient. Et c'est cette histoire ridicule, elle aussi, finalement, de Pierre qui se mettrait à crier. À bout de 50 ans, je n'ai jamais vu une Pierre crier. Peut-être pas être aux bons endroits, mais certains, évidemment, y voient une allusion au prophète Habacuc, qui promet lui aussi le témoignage des pierres des maisons contre les criminels violents. Bon, d'accord. On y voit aussi généralement une confirmation de la justesse de la proclamation royale. Cette affirmation qui devait tellement être proclamée que si les disciples, c'est-à-dire ceux qui en avaient la charge de le faire, ne le faisaient pas, ce sont les pierres, dont la vocation serait plutôt de demeurer silencieuse, qui s'en chargeraient. On peut donc imaginer un Jésus déclarant d'un ton péremptoire « S'ils se taisent, les pierres crieront » et renvoyant ainsi les pharisiens à leur opposition stérile et injuste. Mais on peut aussi imaginer un Jésus soupirant cette phrase avec résignation. « Même s'ils se taisent, les pierres crieront » ce qui donnerait crédit aux reproches des pharisiens en leur concédant « Vous avez raison sur le fond, mais l'action que vous préconisez est vaine ». Parfois, ce qu'on appelle pompeusement le non-verbal crie tellement fort qu'il couvre toutes les paroles prononcées. Alors, j'ai un petit exemple qui date un peu, enfin de 2 ans. Les Oscars 2022. Alors, il y a peu de choses au monde qui présentent à mes yeux aussi peu d'intérêt que la cérémonie d'autocongratulation et d'entre-soi à paillettes. Mais cette fameuse année, il avait été difficile d'échapper à l'événement de cette soirée. Pour ceux qui auraient réussi, et je les en félicite, à ne rien entendre de ce qui s'était passé, ou qui auraient oublié, et je les en félicite aussi, l'acteur Will Smith avait frappé un présentateur qui avait fait une plaisanterie, plus ou moins bon goût, mais bon, une plaisanterie sur son épouse. L'épouse de Smith, hein, évidemment, pas l'épouse du présentateur. Alors, je ne vais pas commenter ni illustrer, d'ailleurs, ce geste. Je ne porterai aucun jugement moral. D'autres s'en sont chargés bien avant moi. Néanmoins, après cet incident, donc, Will Smith a reçu la récompense convoitée et qu'il a fait son discours sur sa vocation d'aimer les gens et de les protéger et d'être une encre pour les siens. La plupart des auditeurs ont dû penser, comme moi, « Hé, mec, tu viens de frapper quelqu'un. Tes discours sur l'amour... » Il aurait pu faire un discours aussi encore meilleur que ceux de Martin Luther King, personne ne l'aurait entendu. Ainsi, même si les disciples n'avaient pas parlé de roi, tout dans les circonstances, la mise en scène, aurait poussé les gens à penser à cette royauté. Un proverbe dit qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. On peut même affirmer que les gens ne voient ce qu'ils veulent voir. J'ai entendu un bon mot, sans doute apocryphe, du général de Gaulle, disant « Si je marchais sur l'eau, demain la presse d'opposition titrerait « Le général ne sait pas nager ». Ici, les gens veulent un roi, ils attendent un roi qui va mettre les Romains dehors, qui va améliorer les conditions de vie, qui va instaurer le paradis sur terre. Donc, quand ils voient un gars charismatique, doté d'une autorité naturelle, d'une capacité à transformer la vie des gens, et que cet homme fait une entrée qui pourrait vaguement s'apparenter à un triomphe, les préjugés prennent le pas sur l'analyse et l'imagination sur le réel. Où, dans son enseignement ou dans sa vie, avez-vous vu la volonté de Jésus de régenter nos existences à coups de lois, de décrets ou d'interdit. Jésus, tout au contraire, invitait chacun à prendre sa vie en main, à la mettre en conformité avec ses convictions. Jésus n'a jamais prétendu à une royauté quelle qu'elle soit. D'ailleurs, dans ce même évangile de Luc, un peu plus loin, lorsque Pilate lui demandera « Es-tu le roi des Juifs ?», Jésus se contentera de répondre « c'est toi qui le dis. Réponse ô combien ambiguë, autant que, que celle des pierres. Confirme-t-il sa royauté sans l'affirmer? Ou range-t-il cette proposition au rayon des absurdités qu'elle portait sur lui? On remarquera d'ailleurs que Luc ne parle pas de la fameuse inscription, INRI, hein, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, sur la croix. Jésus n'est pas venu dans le monde pour régler nos petits tracas, pour nous dicter notre emploi du temps quotidien ou la part à verser à l'institution. Il est venu nous libérer de nos peurs, de nos angoisses, en faisant confiance à l'amour de Dieu. Évidemment, cette question du roi sauveur a, vous y avez sans doute pensé tout seul, un parallèle politique. Je pense que dans une certaine mesure, hein, j'insiste sur une certaine mesure, nos maires, nos édiles, nos présidents de la République, toutes les figures dotées d'un pouvoir exécutif, sont des figures christiques. Alors je m'explique, c'est qu'avant les élections, les gens sont partagés, leur sujet, juste après, une moitié est enthousiaste, l'autre frustrée et en colère, et quelque temps après, tout le monde communie dans cette frustration et dans cette colère. Et on n'hésite pas à le crucifier, symboliquement bien sûr, pour des motifs qui ne sont pas toujours très bons. Alors, je terminerai cette comparaison, cette parabole, par une considération... Non, c'est pas ça, excusez-moi, j'ai raté. Donc, avant, quand vous allez voter, ne surchargez pas votre bulletin et votre candidat d'une série d'espoirs hors de leur portée. Donc, je terminerai cette comparaison sur un plan plus spirituel. À charger Jésus d'un rôle qui n'est pas le sien, on peut facilement tomber, nous aussi, dans la frustration et la colère. Ne faisons pas de Jésus la réponse à tous nos espoirs, mais écoutons ce qu'il nous enseigne pour le recevoir pour ce qu'il est, pour qui il est. Alors Jésus est-il roi ou non? Il faut bien conclure. Bien, ce sera à vous de le faire. On peut en toute honnêteté répondre oui ou non. Si on répond oui, il faudra sans doute redéfinir ce qu'on entend par roi. Et si on dit non, on faudra dire, s'il n'est pas roi, il faut dire ce qu'il est. Tous les mots que nous employons pour qualifier Dieu ou Jésus sont piégés, font partie de notre jargon, de notre patois de Canaan. Roi, Seigneur, Père, Sauveur, Messie et même Dieu. Quand nous discutons entre nous, ça passe. On ne se comprend pas forcément, mais ça passe. Quand nous essayons d'en parler à l'extérieur de nos cercles, nous nous piégeons tout seuls. Mais avant de pouvoir énoncer clairement Jésus, il faut d'abord bien concevoir ce qu'il est pour nous. Ainsi, l'extrait d'Évangile d'aujourd'hui nous invite à mettre au clair nos notions toutes faites, nos certitudes toutes ficelées, et à déconstruire, pour prendre un mot à la mode, notre discours sur Dieu. Donc, votre question que je vous donne, vous partirez avec, roi ou pas? C'est vers toi que je me tourne, cantique 44-15, page 672. C'est vers toi que je me tourne. Nous confessons notre foi. Nous croyons que Jésus est venu habiter parmi nous de la part de Dieu. Il nous révèle notre véritable humanité. Il a été en même temps plein d'amour et de justice. Sa royauté demeure mystérieuse à travers les siècles. Nous croyons que Jésus demeure toujours celui qui vient vers nous. Il vient dans son évangile, dans l'assemblée des fidèles. Il vient sans que nous le sachions, ici et là, vers ceux qui l'attendent. Et vers ceux qui ne l'attendent pas. Il est le mystérieux visiteur de toute vie humaine. Nous croyons que Jésus reviendra, que sa gloire sera reconnue, que sa plus grande gloire sera son amour, et que sa royauté deviendra son royaume. Nous croyons que cette espérance nous unit à tous les humains de la terre. C'est là notre assurance, et c'est là notre joie. Amen. Heureux qui se confie en toi. Prenez place. Voici venu le temps du don. Voici venu le moment de l'offrande. Seigneur, avec l'offrande que voici, nous élevons nos mains pour te rendre grâce. Apprends-nous à la partager avec ceux que tu nous as confiés, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen.
Bonjour à chacun, merci de votre présence, merci à ceux qui sont de passage de nous avoir rejoints. Voilà, merci à Vincent pour avoir présidé ce culte, à Claude Françoise qui était à l'orgue, à Florence et Yvon Serge qui vous ont accueillis, à Barbara et une autre personne, peut-être Christine, voilà, qui nous ont apporté un joli bouquet de fleurs. Et puis je vais dire aussi merci à Frédéric pour le site, parce qu'il y a toutes les annonces de la Semaine Sainte qui sont sur le site de l'Église. Voilà, cette semaine, donc mardi, il y a la chorale, mercredi, la prière. Et puis, après, c'est la Semaine Sainte, donc il y a donc vendredi, déjà à midi et demi, à l'église de Novelle, il y a la prière habituelle du groupe ACAT, voilà, une prière œcuménique. Le vendredi soir, à 20h30, il y a un concert, une veillée concert avec autour de la Passion. Donc ce sera des textes, on va lire la Bible et il y aura des morceaux de musique par la chorale Accord et Dissonance. Voilà, et dimanche, le rendez-vous est à 7h pour l'aube pascale œcuménique sur le parking de Sainte-Bernadette, voilà, sur la place d'Albigny.
Changement d'horaire. Hein. Changement d'heure, voilà, changement d'heure.
Oui, et c'est le jour où il y a le changement d'heure, donc faites attention de bien changer vos montres. Et puis, à 10h, il y a le culte de Pâques, voilà. Et ça sera aussi l'offrande de printemps. Qu'est-ce que j'oublie, hein? Cette semaine, il y a le 26, ça doit être jeudi, ça. Hein, à l'église des Brécis, il y a une soirée œcuménique avec José Dias et puis un pasteur anglican. Voilà. Donc c'est à 20h.
Non, c'est mardi.
C'est mardi ?
Je crois que...
Ah, ben c'est mardi, excusez-moi, mardi. Suite à l'Assemblée générale de la semaine dernière, donc le Conseil presbytéral s'est réuni mardi dernier et donc a voté le nouveau bureau. Donc le nouveau bureau de l'Église, donc c'est Pierre Benoît président, Nicolas Sorel, trésorier, Marie-Yvonne Bonjour, vice-présidente, Frédéric Balducci, secrétaire, et Agnès Troncy, secrétaire adjointe. Voilà. Le 6 avril à 18h au Temple, il y a une conférence de Jean-François Deschamps sur Hildegard von Bingen. Voilà, il y a une affiche sur la porte du Temple et il y a des affiches disponibles auprès de Claudia aussi, si vous le souhaitez. Et puis je terminerai par un communiqué du Conseil d'Église chrétienne en France qui a été signé par le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, et Mgr Dimitros, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Voilà. Les responsables religieux chrétiens de France appellent au cessez-le-feu et à la libération des otages. Nous, responsables religieux chrétiens de France, sommes solidaires de toutes les victimes de la guerre entre Israël et le Hamas et appelons au cessez-le-feu. Porteurs de valeurs de l'Évangile, nous souffrons de la désespérante situation que connaissent plus de 2 millions de personnes vivant dans la bande de Gaza. Nous tenons à affirmer que la restriction d'accès à des ressources essentielles tels que les soins médicaux, la nourriture et l'eau est fondamentalement inhumaine. Nous nous sentons solidaires de toutes les victimes de cette guerre, particulièrement des populations civiles, mais aussi des soldats ou des combattants qui portent et porteront les conséquences des actions qu'ils doivent mener. Nous avons exprimé notre solidarité au lendemain de l'attaque terroriste du 7 octobre 2023. Nous la redisons comme c'est notre devoir après la tuerie de plus d'une centaine de Gazaouis affamés qui a eu lieu le jeudi 29 février 2024 et oblige à voir ce qu'il y a d'inhumain dans la situation présente. Les objectifs militaires et les intérêts politiques poursuivis par cette guerre ne peuvent négliger la priorité que revêt la sauvegarde de toute vie humaine. Nous réprouvons les actes de violence qui exaspèrent la souffrance humaine et empêchent l'émergence d'une paix durable. Nous exhortons les parties prenantes de cette guerre à faire de la protection de la vie humaine et de la dignité des civils leur plus haute priorité. Dans cet esprit, nous demandons instamment à tous les responsables politiques et religieux d'intensifier leurs actions pour mettre fin à cette violence et de prendre les mesures essentielles dans le cadre d'un processus visant à instaurer une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Nous demandons notamment un cessez-le-feu immédiat pour assurer l'acheminement d'une aide humanitaire indispensable, en premier lieu les soins médicaux, la nourriture et l'eau. La libération immédiate de tous les otages, conformément au droit international humanitaire et aux droits humains. Des efforts internationaux pour ouvrir par le dialogue une nouvelle voie politique vers une paix durable. Relancer le débat sur une solution viable à deux États et entamer le travail sur la guérison des mémoires de tous les habitants de la région. En ce temps de carême, nous invitons les chrétiens de toutes les confessions à continuer de porter instamment la situation du Proche-Orient dans leurs prières, à ne pas s'habituer à cette situation de guerre et de violence, à être facilitateurs de dialogue et de rencontres là où les sensibilités des uns et des autres s'opposent, à prier et travailler sans relâche pour que tous puissent dans leur religion des raisons de servir la paix et de dépasser les peurs et les colères. Voilà. Et dernière, ouais. Merci Norbert. Cet après-midi à 16h, il y a la dernière conférence de carême sur France Culture.
Oui, ce petit temps s'appelle annonce et nouvelles. Donc il est aussi bon de donner des nouvelles de gens de la communauté, notamment ceux ou celles qui ont besoin du soutien de notre prière. Alors peut-être que certains de vous ont des nouvelles données. Moi j'ai trois familles qui ont besoin d'être soutenues spirituellement par vos prières. Alors c'est la famille d'Alexandre. Un jeune homme qui traverse une période difficile et par conséquent toute la famille traverse une période difficile. On peut penser bien sûr à la famille Bonjour aussi. Voilà. Je pense à la famille de mon épouse. Sa sœur est hospitalisée. On n'a pas de nouvelles depuis hier soir. Et comme vous ne savez pas, mais elle est très, elle avait une maladie très rare, une maladie orpheline, et toute maladie opportune peut être fatale. Donc on est un peu dans l'angoisse. Et ensuite, la famille de Madame Elisabeth Bercla, qui est une cousine de Nicole Michaud, qui est décédée cette semaine dans la paix. Mais bon, même si c'était une personne très âgée, qui était en fin de vie, c'est quand même toujours un moment de deuil. Et le soutien de vos prières pour ces quatre familles sont importants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter un nom ? Micheline Berke, oui. Oui, j'ai eu un coup de fil de sa cousine cette semaine. Micheline Berke, donc, qui est aussi en fin de vie. Alors, je vous invite à grouper toutes ces prières et toutes celles que vous avez en vous dans la prière d'intercession. Ô notre Dieu, viens nous désenfermer de toutes nos prisons. Ouvre nos prisons bien réelles, en particulier celles dans lesquelles des régimes autoritaires enferment son procès équitable. Ouvre les prisons de chez nous, qu'un peu d'amitié et que des relations puissent exister entre ceux qui s'y trouvent et nous-mêmes. Rouvre le ciel là où il n'est que bombe, déluge de feu et menace. Rouvre nos propres prisons, là où sont enfermés ceux qui sont guettés par les maladies, les angoisses, les solitudes. Rouvre nos propres prisons qui nous isolent des marginaux, handicapés, étrangers, différents. Donne-nous d'être anges et messagers, partout où il faut relier le ciel et la terre, rapprocher les humains les uns des autres, redonner l'espérance. Car c'est en membre d'une même famille, enfant d'un même Père, que nous te disons avec confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et pour le cantique final que nous chanterons après. Employez votre temps à rêver, employez votre énergie à prophétiser, employez votre espérance à recevoir des visions d'amour, de paix et de justice. Employez votre vie à affirmer simplement la joie, le courage, la foi et la bonne nouvelle de Jésus-Christ Sauveur. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et il vous donne et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et il vous donne la paix. Allez dans la paix de notre Seigneur. Amen.
Dimanche à tous.